exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Radio Caméléon arrive sur les grandes ondes.
Nous parlons de ce que l'on sème sans peine sur JetFM.
Bonjour, ici Radio Caméléon et son équipe composée de Denis, Fabrice, Johanna et moi-même Tatiana sur les ondes de JetFM 91.2. Pour la dernière émission de la saison, nous allons nous attaquer au domaine du sport et plus précisément au basket et à l'escalade. Nous aborderons dans un premier temps le sport de haut niveau, puis nous nous intéresserons au sport santé. Bonne écoute avec Radio Caméléon sur JetFM 91.2.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Alors, je m'appelle Maxime Chiron, j'ai 30 ans, je suis entraîneur à Nantes Basket depuis 10 ans, avec une petite interruption l'année dernière. Donc, je suis entraîneur assistant, entraîneur adjoint de Jean-Baptiste Lecronier sur l'équipe professionnelle.
Très bien.
Depuis le mois de janvier.
Ah ben, c'est très bien. Alors, voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé, motivé à devenir entraîneur ?
J'ai toujours voulu travailler dans le milieu du sport, donc je suis arrivé à Nantes en fac de sport sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Au départ, j'étais plus parti sur la préparation physique. Et puis, je pratiquais le basket et j'ai toujours entraîné dans les clubs où je pratiquais justement. Et puis, au fur et à mesure, en venant en stage ici avec Jean-Baptiste quand il était sur le centre de formation, j'ai commencé mes formations fédérales pour devenir entraîneur. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et j'ai quitté un petit peu la filière de la préparation physique pour vraiment rentrer dans le basket.
Très bien. D'ailleurs, je vous le dis tout à l'heure que vous avez été joueur, donc jusqu'à quel niveau ?
Un petit niveau régional.
Ça ne vous empêche pas de... Voilà,
Non, en fait, j'ai arrêté de jouer en compétition à 18 ans. J'ai fait que les catégories jeunes.
D'accord, voilà. Très bien. Donc après, vous avez quand même une bonne base quand même.
Ouais, bah, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, j'aimais jouer, mais très vite, j'ai préféré entraîner.
D'accord, très bien. Y a-t-il d'autres intervenants et lesquels, médecins, kinés, ça se procède dans le club
Alors, il y a tout un staff médical, donc avec un médecin, un kiné, un ostéopathe, un podologue. Donc ça, c'est des gens qui interviennent toute la semaine et les soirs de match à domicile autour de l'équipe. En intervenant régulier, il y a aussi un préparateur physique, donc qui est là tous les matins avec nous, qui intervient sur le travail individuel avant les entraînements. Pendant les entraînements aussi sur le travail plus collectif. Et puis, après, il y a tout l'entourage au bureau avec une secrétaire qui va s'occuper un petit peu de tout ce qui entoure la vie des joueurs, leurs appartements, leurs voitures, tout.
L'encadrement,
c'est ça.
D'accord. Alors, quelles règles d'hygiène donnez-vous à vos joueurs ? Demandez-vous également à vos joueurs ?
Alors, c'est compliqué de les suivre au quotidien. Donc c'est évidemment compliqué de les suivre au quotidien. On compte sur leur professionnalisme. Autant quand on est entraîneur en centre de formation, on a le devoir un peu de les guider, en tout cas de leur apprendre tout ça. Maintenant, quand ils sont pros, c'est clairement pas simple de les suivre. Et on compte vraiment sur ça, sur leur professionnalisme. Quand on est en déplacement, donc c'est les seules fois où on mange avec eux, donc évidemment c'est des repas qui vont être adaptés à la compétition. Maintenant on n'est pas chez eux le jour de match, on n'est pas chez eux la veille d'un match, donc voilà, on peut être que on peut être que en confiance finalement avec nos gars pour qu'ils fassent pas n'importe quoi.
D'accord. Y a-t-il des joueurs quand même, certains joueurs qui font peut-être des excès quelquefois? Non, ça arrive rarement. Un petit peu.
Sur les séances du dimanche matin, on voit que certains sont peut-être un peu plus fatigués que d'habitude. Voilà. Mais ça reste quand même des joueurs pros et les mecs sont quand même. Il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire qu'ils arrivent à l'entraînement, ils sont prêts à s'entraîner, genre de match, ils sont prêts à jouer. Alors évidemment, il y a des joueurs qui ont une hygiène de vie, et on le voit, vraiment bonne, parce que c'est quelque chose qui s'impose à eux. D'autres qui vont être amenés peut-être à un petit peu plus sortir. Mais dans l'ensemble des joueurs, nous, on n'a pas vraiment de problème avec ça.
Voilà. Et alors, justement, quand si un jour vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui a fait un excès, comment réagissez-vous à ce moment-là? Vous le prenez à pain? Vous le... Oui, c'est...
Déjà, c'est pas arrivé.
Bon, maintenant, c'est bon. Voilà,
maintenant, comme je vous disais, vraiment, nous, c'est à partir du moment où les joueurs arrivent pour l'entraînement, ils doivent s'entraîner. S'ils sont moins bons, après, quand on s'entraîne moins bien, bah, peut-être que ça sera répercuté volontairement ou non sur leur temps de jeu, évidemment. D'accord. Mais c'est pas quelque chose qu'on a eu, en tout cas, à gérer cette année.
Un certain niveau quand même, oui, je pense.
C'est ça. C'est ça.
Il y a une confiance qui s'installe.
Exactement.
Alors par contre, le capitaine de l'équipe, c'est vous qui le jugez avec vous faites une petite commission comment?
Alors la particularité, c'est que moi je suis arrivé en milieu d'année, donc ça se fait en début d'année. Le coach le choisit en fonction des valeurs du joueur, de son passé aussi. Donc le capitaine, c'est Chris McKnight, donc c'est un joueur américain. C'est pas si courant, je pense. J'ai pas tous les capitaines en tête de la ligue, mais je pense que c'est pas si courant. Mais c'est un joueur sur qui on a complètement confiance. Voilà, on sait qu'on peut partir, comme on dit, à la guerre avec lui. C'est des joueurs qui défendent nos valeurs.
Qui défendent nos valeurs.
Voilà, ben exactement.
C'est important dans le sport collectif.
Ouais, et qui est un vrai relais entre nous et les autres
voilà,
joueurs.
Voilà, tout à fait. Alors, vis-à-vis un petit peu de l'arbitrage. C'est un rôle important aussi l'arbitrage.
Évidemment.
Voilà, parce que moi j'en ai fait un arbitrage, mais pas au basket, en football. Donc je connais un petit peu les. Alors comment vous jugez l'arbitrage actuellement? C'est un bon niveau? Ça respecte un petit peu tous vos engagements, vos devoirs? Comment ça se passe?
Alors déjà moi en tant qu'entraîneur adjoint, j'ai pas géré directement les arbitres. C'est le travail du coach, c'est le travail du capitaine. On peut être frustré par des coups de sifflet, on peut être frustré par plein de choses pendant un match. Moi j'ai toujours, même en tant que coach, pensé comme ça. C'est plutôt essayer d'agir sur ce qu'on peut gérer. L'arbitrage pour moi c'est un facteur extérieur. Et pendant un match c'est difficile de l'influer. Donc en tout cas, moi mon avis c'est plutôt que de demander si eux sont bons ou pas bons, c'est savoir ce que nous on peut faire pour être meilleurs. Et puis essayer d'avancer dans notre match en agissant sur vraiment ce qu'on peut gérer. Voilà. Pour moi, l'arbitrage, c'est pas un facteur facile à gérer.
Vis-à-vis des joueurs qui s'en prennent un petit peu, parce que j'ai venu voir quelques matchs, et c'est vrai qu'il y a quelques fois, les joueurs ont tendance un petit peu sur une action. Alors là, comment vous les prenez à part?
Certains ont besoin de ça. Certains joueurs ont besoin de monter dans les tours un petit peu pour être performants. Après, encore une fois, nous, quand on revoit les matchs, notre capitaine avait un vrai rôle dans ces moments-là. C'est-à-dire que c'est lui qui allait chercher les joueurs, qui allait leur demander un petit peu de redescendre, de se calmer et de rester focus sur le match plutôt que sur un fait de match qui n'a pas été en notre faveur. Donc le capitaine et aussi le coach qui va gérer. JB connaît parfaitement les joueurs et du coup c'est lui qui gère un petit peu ce curseur. Quand il voit que les joueurs vont un petit peu trop vers les arbitres ou quand ça les sort un petit peu trop du match, c'est lui qui va un petit peu les faire redescendre pour les remettre.
Vous demandez un temps mort à ce moment-là peut-être?
Pas forcément, c'est dans le fait de se parler directement depuis le terrain.
D'accord. Très bien. Alors, lors d'une victoire tout va bien, mais lors d'une défaite, comment ça se passe?
Alors, il y en a eu pas mal.
Ben oui, ça aussi. Bon.
Alors, et c'est encore pareil, moi j'ai travaillé pas mal d'années avec JB, c'est ce qu'il a toujours dit, c'est qu'on est, après une victoire, on n'est pas champion du monde, et après une défaite, on n'est pas non plus les plus mauvais. Donc, le bilan d'un match, nous on le refait systématiquement en revoyant notre match dès le lendemain, ou le soir même des fois. Voilà, on revoit notre match et on se fait des meilleures idées finalement que toutes les idées qu'on a pu avoir à chaud. La gestion de la défaite, c'est, c'est quelque chose qui n'a pas été simple cette année, parce que quand elles s'enchaînent, alors que les gars ont été investis complètement. Voilà, quand on est investi et puis quand ça ne passe pas sur des scénarios qu'on peut être improbables en plus cette année, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et la première chose qui est importante, c'est vraiment les valeurs collectives de l'équipe. Ça veut dire que quand ça va pas, c'est très facile de se dire ouais mais lui machin, ouais mais lui, ouais mais lui. On n'a pas eu ça cette année. Ça veut dire que les gars sont vraiment restés ensemble et on a pu vraiment compter sur une base solide de joueurs.
Ça fait une bonne explosion.
Voilà, qui a fait que ça n'a pas explosé et qu'on a pu justement gérer ces défaites-là. Et voilà, les victoires ces dernières semaines font encore plus de bien, parce que finalement le fait d'avoir été groupé dans les moments difficiles, ça rend les victoires aussi
tout à fait
bien plus intéressantes.
Très bien, très bien. Eh bien, une victoire, c'est pareil. Bon, mais c'est votre réaction, mais là, c'est, tout est... non, c'est, vous vous emballez pas.
Non, c'est ça. Ouais, non, surtout quand il y a eu pas mal de défaites avant, on peut pas s'emballer. Puis il faut toujours essayer de faire mieux. Voilà, quand on a gagné, notre travail, c'est de savoir, ce qu'on peut faire pour faire encore mieux, pour enlever les quelques temps faibles qu'on a eu dans un match, pour enlever tout ça. Voilà, c'est vraiment... c'est prendre, pour moi en tout cas, une défaite et une victoire pas de la même façon, puisque évidemment quand on se revoit à l'entraînement après une victoire, c'est bien plus intéressant. Mais en tout cas, c'est essayer de voir ce qu'on aurait pu faire de mieux à chaque fois qu'il y a eu victoire ou défaite, pour vraiment continuer à progresser.
D'accord. Il nous reste une bonne équipe soudée, très important.
Exactement. Exactement.
Alors, on va revenir un petit peu à vous quand même, parce que c'est important, c'est pour vous. Quel a été le moment fort de votre carrière de coach ?
Le moment fort, il y a pas mal de choses. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé dans un club à côté, à Orvault, dans le nord de la ville. Moi, j'ai eu un moment fort, mais qui est une défaite, mais ça reste un moment fort. C'est une année où on a raté les playoffs pour l'accession en National 2 sur le dernier match.
D'accord, voilà. D'accord.
C'est quelque chose de très dur, parce que c'est une année à travailler... Et voilà, quand ça se termine sur une défaite d'un point au dernier match, voilà, c'est quelque chose qui marque.
Ça vous bloque la
montée. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui marque, et en même temps, ça permet aussi de progresser. Parce qu'on n'a pas envie que ça arrive. On n'a pas que ça arrive.
Tout en jouant vraiment le haut niveau. C'est vrai que c'est frustrant quand on...
Oui, c'est certain.
Mais on s'en sort que plus fort, je crois.
C'est ça. C'est pour ça que je le retiens.
Alors, avez-vous déjà entendu parler du sport santé ?
Oui, un petit peu. Alors un petit peu, mais vraiment à la radio, à la télé, tout ça. Mais c'est pas quelque chose encore dont on entend parler énormément.
Très bien, oui, parce que c'est vrai que c'est un peu le goût du jour actuellement. Hein.
Oui.
Il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à tout ça, à tout le sport en général. Et c'est vraiment important. Bon, bah, écoutez, hein, on a fait une bonne interview, je pense. On pourrait en poser beaucoup
c'est
de questions.
Vrai.
En tout cas, moi, je vous souhaite une chose, c'est que vous restiez à ce niveau-là et voire monter encore à...
C'est gentil, merci
voilà.
Beaucoup. On va tout faire pour, merci beaucoup.
Très bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Brian Pamba.
Et quel âge avez-vous ?
J'ai 26 ans.
Depuis combien de temps pratiquez-vous le basket ?
Ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant, je ne sais plus exactement. Ça fait un bon bout de temps.
Et vous avez touché quand votre premier ballon ?
J'avais 9 ans et demi. Ouais.
D'accord, ça fait un moment déjà. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport ?
Alors pour ma part, c'est mon frère, parce que moi j'étais plutôt porté vers... le foot, qui est quand même mon sport préféré à la base. Donc je jouais beaucoup au foot et mon frère m'a initié au basket en me montrant une cassette et depuis j'ai jamais lâché.
Et vos parents aussi vous ont...
Pas du tout.
Pas du tout, c'est
pas
seulement
tout.
Votre frère.
Non, juste mon frère.
D'accord. Et quel est votre parcours ?
Alors, malgré mon jeune âge, j'ai beaucoup voyagé. Mmh. Je suis parti assez tôt de chez mes parents, il me semble à 13 ans, 14 ans. Je suis passé par Épinal, Bayonne, Pau, Orléans, Lille, Évreux et voilà, ici à Nantes.
Vous avez commencé la France quand même.
J'ai pas mal voyagé.
Et depuis combien de temps faites-vous partie du club?
C'est ma première année.
Première année. Ouais. Combien d'heures d'entraînement faites-vous par semaine?
Les semaines, elles varient en fonction des matchs qu'on peut avoir, parce qu'on peut avoir deux matchs sur une semaine. Donc en général, c'est deux entraînements le lundi, un le mardi, deux le mercredi, un le jeudi et un match vendredi.
T'es pas trop fatigant?
Bah non, maintenant non, ça va. J'ai l'habitude, ouais, avec toutes ces années.
Et cela, ça demande beaucoup de sacrifices au niveau, par exemple, l'hygiène alimentaire. Oui, je vois ça. Oui.
Non, je pense qu'il y a, en fonction des personnes, il y en a qui sont un petit peu plus assidus que d'autres. Mais bon, moi, pour ma part, c'est mon petit péché mignon, les petites bêtises, les bonbons, les confiseries, tout ça.
Oui, il n'y a pas vraiment de régime. Quoi.
Non, pas vraiment. J'ai la chance de m'entraîner assez souvent, donc ça va.
Ça se voit pas. Non,
ça ne m'affecte pas trop.
Combien de matchs disputez-vous par mois?
Là, par mois, 4 semaines, un mois, on va dire entre 4 et 5. Ouais.
4 et 5. Ouais. Est-ce que vous avez un cri de guerre?
Un cri de guerre?
Oui, avant l'entraînement par exemple. Avant le match plutôt.
Oui, c'est il y a le capitaine qui crie Hermine et on crie tous Nantes derrière.
Ah, d'accord. Comment réagissez-vous après une défaite?
Après une défaite, malheureusement cette année il y en a eu beaucoup trop, donc c'est souvent le même sentiment de déception déjà. Après le sport de haut niveau, il faut tout de suite basculer vers l'avant et essayer de...
Justement, comment vous réagissez après justement à une victoire alors?
Après une victoire, c'est toujours plus facile.
C'est plus facile.
Hein. Ouais, tout le monde est content dans le vestiaire. Bizarrement, on dort beaucoup mieux. Mmh. Mais ouais, une victoire c'est beaucoup plus agréable et la soirée se passe beaucoup mieux.
D'accord. Quel a été le moment fort de votre carrière?
Le moment fort de ma carrière?
C'est difficile, il y en a peut-être eu plusieurs.
Non. J'aurais bien aimé vous dire le titre de champion, mais malheureusement, c'est pas arrivé.
C'est pas arrivé encore.
Mais non, si jamais je devais retenir la plus belle expérience de ma jeune carrière, ce serait avant même qu'elle commence. J'ai eu l'occasion de faire un tournoi aux États-Unis qui était censé me propulser sur les devants de la scène mondiale au niveau du basket. Un tournoi qui s'appelle le Adidas Nations que j'ai fait à Chicago où vraiment j'étais dans les meilleures conditions. J'étais vraiment traité comme un joueur NBA, donc c'était la plus belle expérience.
D'accord, c'est déjà bien. Hein.
Ouais, c'est pas mal.
et que pensez-vous faire une fois que votre carrière sera terminée en fait? Vous resterez dans le sport ou
Je m'étais dit qu'une fois que j'en aurais fini avec le basket, j'arrêterais avec le sport, mais je pense que ça va me démanger et que je vais retourner.
C'est dans la peau en fait.
Ouais, carrément. Je pense que je vais rester quand même dans le milieu du sport.
Dans le milieu du sport. Bah, je vous souhaite une bonne continuation dans
Merci
le sport
beaucoup.
Et puis je vais vous poser une petite question sur le sport santé, si vous en avez entendu parler.
Pas du tout.
Non, c'est lié en fait à l'handicap, donc c'est adapté au sport, donc on commence à le développer un peu plus, donc peut-être que ça viendra dans le basket. Hein.
Mm-hmm. Okay.
Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'interview.
Merci à vous.
Et maintenant, nous allons écouter une chanson, Le Rigolo. C'est une parodie, Le Mambo du Décalco, de Richard Gottener. Créé et chanté par le groupe Écriture et Chant du CATTP des Salorges. La bande-son est jouée par le guitariste Nicolas Just Dos Hit. Bonne écoute!
Il n'est pas d'un parti, il n'est pas très aguerri, le rigolo bandit. Celui du vendredi, c'est un petit zigoto, pas très bien dans sa peau, il n'aime pas le boulot, il préfère l'apéro, ballo. Le rigolo, il est parti, le rigolo, il s'est enfui, à la ceinture, le magot, et à la bouche, le mégot. Mais ton boulot, dodo, pour lui c'est se voit. J'ai mis pas de malice, attention, il se vexe, toujours un peu perplexe quand il fuit la police. Et ça lui prend la tête sur son petit vélo, poursuivi par un chien, il en fait un salto. Le poteau, bobo, maman bobo. La douleur crescendo monte vite au cerveau. Dingo, il est parti. Le berlingo, il s'est enfui. À la ceinture, le magot. Et à la bouche, le mégot. Léger comme un flocon, et malin comme un loup, pas du tout un mouton. Il fait les 400 coups. Croisez-le en journée, il porte du jaune fluo. Il est de toute beauté, des pieds jusqu'au chapeau. Et du matin au soir, il est dans la galère. C'est pas très rigolo de mordre la poussière. Le poteau, bobo, maman bobo, bobo, bobo. Tous les lingots, les euros, les pépénis, les billets, le magot. Tout est énervé à l'eau, il repart à zéro. Rigolo, il est parti. Le rigolo, il s'est enfui. À la bouche, le mégot.
Oh oh.
Bonjour, nous sommes en présence aujourd'hui de M. Florian Nicolas. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, donc moi je suis éducateur sportif à Nantes Basket Hermine, au sein duquel je propose du basket santé au sein du club, tout comme sur les grands comme sur les petits.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu donc, du sport santé ? Enfin, quelle est par exemple la différence avec le sport adapté ? Est-ce que vous pouvez me dire un peu tout ça ?
Donc le sport santé, ça appartient en fait à l'ensemble des fédérations françaises de sport. Donc il peut y avoir le football, le basketball, et c'est là, c'est le sport qui est choisi pour après mettre en place des pratiques adaptées au sein de ce sport, mais qui est accessible à tous. D'accord. C'est-à-dire que des personnes vieillissantes peuvent y aller, des personnes atteintes de troubles psychiques, ça peut être des personnes atteintes d'obésité, mm-hmm. Ça peut toucher tout le monde. Par contre, le sport adapté, il y a une fédération française de sport adapté, et là c'est que des personnes atteintes de troubles psychiques ou de déficience intellectuelle, qui ont le droit. Et par contre, derrière, au sein de cette fédération, on peut toucher à tous les sports. Très bien, tir à l'arc, pétanque, basket, badminton, enfin, sport de combat, tout.
Pour le sport adapté.
Pour le sport adapté.
Et c'est pareil pour le sport santé, il y a vraiment plusieurs types
de... Le sport santé, du coup, c'est un sport qu'on ouvre à tous, mais à chaque fois, c'est chaque sport lui-même qui va s'ouvrir. Par exemple, le basket va s'ouvrir d'une manière,
d'accord.
Le foot va s'ouvrir d'une autre manière, mais chaque sport va s'ouvrir pour proposer du sport santé à tous.
D'accord.
Mais ça appartient à la fédération du sport, et enfin, tous ne le font pas encore aujourd'hui.
D'accord.
Bienvenue dans les locaux de Jet FM 91.2 avec Radio Caméléon. Avec la participation de Johanna, Denis et Tatiana, aujourd'hui nous recevons sous le thème du sport santé différents intervenants. Thierry Bouet, Guy Biloire, Sébastien et Thierry. Je vais laisser se présenter maintenant les différents intervenants. Donc, je vais commencer par exemple par Guy Biloire.
Bonjour.
Bonjour.
Guy Biloire, donc je suis un licencié du NBH. Alors le NBH, c'est le Nantes Basket Hermine. L'entité ancienne, c'était l'Hermine, et le club est connu sous le nom d'Hermine depuis très longtemps. Je suis membre du comité directeur, mais suis surtout depuis un certain temps animateur basket santé sur la butte Sainte-Anne dans notre salle.
Donc Thierry Bouet, je suis licencié d'un club aussi à Nantes qui s'appelle la SPTT et je suis aussi également vice-président de la Ligue des Pays de la Loire, de la montagne et de l'escalade, et en charge plus particulièrement d'un projet sport santé depuis 2014.
D'accord. Sébastien ?
Oui, moi je suis patient au CATTP et en fait
Je participe à l'activité escalade depuis le mois d'avril de cette année.
D'accord. Et enfin Thierry.
Oui, bonjour. Je suis patient au CATTP et ça fait 3 mois que je pratique le basket santé.
Eh bien, écoutez, maintenant, on va lancer, l'émission. Et on va donc avec Tatiana, Johanna,
bonjour Denis.
Fabrice et bonjour moi-même. Denis. Nous sommes donc, faisons partie d'une radio, donc Jet FM et Radio Caméléon. Voilà, donc nous allons commencer par une première question à M. Thierry Bouet. Depuis quand parle-t-on du sport santé?
Alors moi, j'en ai entendu parler depuis 2009. Alors, à cette époque-là, au niveau du Comité national olympique et sportif, il y avait donc le docteur Calma, qui est un ancien champion olympique et médecin, qui a lancé cette idée de la pratique sportive dans le cadre de la santé. Ensuite, l'idée était de mettre en place ce qu'on appelle le médico-sport santé, c'est-à-dire en fait que le médecin puisse faire un certificat médical pour les patients qui souhaitent reprendre une activité physique. Et donc cette opération-là a mis du temps, puisqu'on met en œuvre des processus quand même qui sont assez compliqués et aussi où on touche à la santé des gens, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc du coup, on a abouti donc à un décret, je crois que c'était le 30 décembre 2016, où on autorisait en fait le médecin, à partir du 1er mars 2017, à faire une prescription d'activité physique adaptée. Donc là, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres opérations de lancer bien avant le décret, c'était des premières expérimentations. Ce qui était important, c'était que la pratique de l'encadrement soit vraiment bien cadrée, puisqu'on confie la santé des gens à des encadrants sportifs. Il fallait que cela soit diplômé avec toutes les garanties que ça se pratique dans les bonnes conditions.
D'accord. On en parlait tout à l'heure off, mais ça concerne quelle pathologie exactement ?
Alors là, c'était pour les malades en affection de longue durée, donc les pathologies chroniques, donc cancer, également les gens qui sont en surpoids. Donc c'est essentiellement il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 10 millions de personnes en affection de longue durée. Donc c'est quand même une population très importante. Mais essentiellement, c'était des 4 pathologies, donc sur le surpoids, le cancer. Je pense que c'est tout pour l'instant.
Et vous-même, au sein de la Ligue de montagne et d'escalade, vous pratiquez donc l'escalade, mais la pathologie, c'est plus laquelle?
Alors la pathologie qu'on a mis en avant, en fait, qu'on a proposée, donc en fait, c'est un projet pilote qui a été lancé par la fédération, qui nous a confié le projet au niveau de la Ligue, c'était pour les femmes en rémission de cancer du sein. En fait, l'idée, on a plus ou moins copié, on va dire, les pratiques qui étaient faites par, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des Pink's Dragon Lady, c'était des femmes qui rament. Donc, en fait, on s'est dit, si elles peuvent remuer les bras, les épaules, il n'y a pas de raison. L'escalade, c'est un peu le même mouvement, donc il y a un monté de bras. Donc, on a lancé cette idée et donc on l'a mis en application. Alors évidemment, pour lancer une opération comme ça, on s'est mis en relation avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest, donc qui est tout près d'ici, là, avec qui on a beaucoup discuté, les oncologues, et puis qui nous ont donc proposé des patientes.
D'accord, merci. Avez-vous été concerné personnellement par la maladie ?
Alors c'est une question personnelle, ça. J'ai été concerné, pas moi, mais dans ma famille, dans mon entourage, donc c'est quand même quelque chose d'assez... Ça laisse des traces, hein, c'est clair.
Oui,
donc, moi je suis intimement convaincu de ça. Donc, je suis un ardent défenseur du sport santé. Donc, c'est normal que j'ai mis toute mon énergie dedans pour faire aboutir ce projet. Donc, on l'a lancé maintenant depuis à peu près un an au niveau de toute la fédération. C'est-à-dire, il y a à peu près 6 à 7 régions qui se sont lancés dans cette opération-là, évidemment, à travers des clubs. Il faut en général une personne qui soit très motivée, qui soit convaincue du bien-être du bien fondé de cette action. Donc un club, en général un centre de cancérologie pour la pathologie de cancer. Hein. Et puis après, bah, il faut du temps, il faut être patient en fait. Pour une opération comme ça, il ne faut pas croire qu'on va avoir 50 personnes qui vont venir frapper la porte tout de suite. D'ailleurs, on serait incapable d'encadrer un si grand nombre. En fait, en général, c'est des séances qu'on fait à 6 ou 7 personnes, pas plus.
Alors écoutez, à ce sujet également, il y a beaucoup de programmes a priori, et en fonction du public, mais à l'échelon national, est-ce que le sport santé est encadré par des lois ?
Il y a le décret du 30 décembre 2016 qui a légiféré en donnant l'autorisation aux médecins de prescrire une activité physique adaptée. Et donc le décret, et ensuite la loi, c'était à partir du 1er mars 2017. Alors il faut savoir que bon, le corps médical, moi bon, par exemple mon médecin traitant, il n'était pas au courant. J'en ai parlé bien avant, donc du coup il a été informé via ses patients. Mais pas par le corps médical. C'est sûr que pendant très longtemps, en fait, je pense que le médecin du sport, il n'a pas été considéré comme étant vraiment une personne clé dans cette action de santé publique. Et on s'aperçoit fort heureusement que maintenant, on avait raison de lancer des opérations comme ça, parce que le sport et la santé, c'est très important.
Sinon, j'aimerais avoir l'avis de Guy Biloir et de Thierry, donc le participant au basket santé. Ça fait longtemps, donc ça fait combien ? Un an que vous faites cette activité basket santé ?
Alors, moins d'un an. L'idée qu'on a eu développée avec Séverine Aubert, à partir d'informations sur le basket en général, le basket loisir qui était pratiqué à l'Hermine, c'était de se dire y a-t-il d'autres pratiques que le basket loisir au sein de la fédération ? On s'est rapproché de la fédération qui nous a donné les informations, un peu les mêmes que celles qu'on vient d'entendre sur les possibilités des médecins de prescrire une activité sportive. Pareil, les objectifs étaient plutôt sur rémission, cancer, mais pas que. Donc à partir de cette idée de base, on s'est rapproché de la fédération pour savoir comment on allait opérer, parce que c'est très structuré au niveau de la fédération. Il y a plusieurs niveaux au niveau des pathologies, plusieurs niveaux au niveau des patients. Est-ce qu'ils ont déjà pratiqué ? Est-ce que c'est d'anciens basketteurs ? Est-ce que c'est des anciens sportifs ? À partir de là, nous, on a réfléchi avec la structure du CATTP des Salorges pour faire une espèce de porte ouverte et voir si l'offre que l'on avait était plausible. C'est ce qu'on a fait. Donc, en fin d'année 2017, on a encadré quelques séances avec un jeune qui était en emploi civique, qui avait déjà aidé dans la région de Poitiers, qui avait déjà aidé un club à structurer le sport santé, le basket santé. Plutôt le sport santé, puisqu'il avait une palette plus ouverte. À partir de cette idée, on a commencer à faire un certain nombre de séances. Et on a vu que petit à petit, les patients, comme Thierry, accrochaient, revenaient avec le sourire. Je crois que nous, on est aussi dans un démarrage. Hein. L'Hermine de Nantes, c'est plutôt un club orienté vers l'élite. Et on est en train de changer en ce moment, là, depuis un an et demi. Et l'idée, quand on a présenté à notre comité directeur notre projet, on a dit du papy basket au baby basket ou du baby basket au papy basket, puisque on a ouvert aussi le club aux tout petits hein, cette année. On reféminise parce qu'il n'y avait plus quasiment de filles dans le club, d'équipe féminine. Et donc, il y a un changement d'orientation. Et ce changement d'orientation va aussi vers les patients qui, en rémission, ou des personnes vieillissantes qui n'ont plus trop la possibilité de faire du basket loisir. On a deux équipes de basket loisir où je suis le vieux papy, moi, 70 ans, mais ça court toujours. Mais certains n'ont plus d'activité et souhaitaient aussi éventuellement reprendre une activité physique. Donc on a cette offre D'un côté, plutôt tourné vers des patients du type CATTP, mais aussi d'autres personnes qui souhaitent une reprise d'activité ou prendre une activité, parce qu'il y en a, qui ne connaissent pas le basket. Le basket étant, à mon avis, le prétexte à une reprise d'activité et aussi un échange et de la sociabilité.
En fonction des sports, quelles sont les adaptations, en fait, selon que ce soit de l'escalade ou du basket
Alors, les règles pour le basket santé, c'est... pas de saut, pas de contact, ça c'est la base, alors que quand on regarde un match de basket à certains niveaux, il y a beaucoup de sauts, il y a beaucoup de contacts. Donc ça c'est la base. Il y a trois niveaux. Il y a un niveau 1 qui est, à la limite, c'est on peut pratiquer le sport santé dans un EHPAD avec des personnes vieillissantes au milieu d'une salle d'activité traditionnelle de l'EHPAD. Là, on a des moyens adaptés, des ballons adaptés, des ballons plus mous, des ballons plus gros, des ballons plus petits. On peut pratiquer assis. Et la fédération a mis en place des éléments comme un panier de basket démontable de très grande dimension qui permet à des personnes assises d'avoir les gestes du basket. Ça a été développé. Hein, la fédération, ça fait 4-5 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Donc ça, c'est un premier niveau pour les personnes vraiment en difficulté, qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Un deuxième niveau, qui est celui qu'on utilise avec le CATTP des Salorges, des personnes qui sont mobiles, mais qui n'ont pas une activité physique intense. Et un niveau 3, c'est quasiment le basket loisir, mais sans contact et sans saut. Donc là, on a adapté le principe, les jeux du basket, à des personnes qui sont en reprise d'activité ou qui ont des difficultés de santé.
Très bien.
Donc, si je permets d'intervenir par rapport à l'escalade, on a aussi la même approche, c'est-à-dire que nous, on a cherché des structures. Donc, on a souvent des structures artificielles d'escalade dans les gymnases avec des pans positifs. Il était hors de question pour nous que les femmes puissent tirer sur les bras dans des pans négatifs ou des surplombs.
Excusez-moi, je me permets de vous interrompre, mais les pans positifs, en quoi ça consiste ?
Un pan positif, c'est un pan qui est incliné du côté, du bon côté. Il n'est pas en dévers.
D'accord, ok, voilà. Merci.
Donc, parce que si on est en dévers, on va avoir tendance naturellement à tirer sur les bras. Du reste, les gens, quand ils pratiquent pour la première fois d'escalade, tirent énormément sur les bras, alors qu'il faut pousser sur les pieds et se rééquilibrer par aux mains. Mais ça prend au fur et à mesure. Donc ça, c'est hyper important. Et puis aussi, je pense qu'il faut aussi noter que... comme ça a été dit auparavant, les pratiques sport santé ne s'appliquent pas simplement pour les malades en rémission de cancer ou les malades en ALD. Notre approche nous était aussi de s'ouvrir à tout public, c'est-à-dire que permettre à des gens, par exemple, qui ont une appréhension par rapport à l'équilibre, pourquoi pas venir travailler avec nous. Là, évidemment, elles ne vont pas monter à 15 mètres de haut, mais on peut faire une pratique à 50 cm de hauteur avec des petites traversées. Ça existe dans notre sport, ça s'appelle l'escalade de bloc. Donc c'est sans cornes, sans mousquetons, sans aucun équipement, avec des gros tapis. Et quand on tombe en toute sécurité. Donc on peut retravailler la perception de l'équilibre, la confiance en soi.
Très bien.
Et vous, quel est votre vécu par rapport aux activités, donc escalade pour Sébastien et basket pour Thierry? Thierry, par exemple, si vous pouvez nous dire de la pratique basket.
Disons que c'est moins intensif qu'un sport normal et ça permet aux malades de se réhabituer à faire de l'exercice, à retravailler le rythme cardiaque, tout ça. Et c'est très agréable. Moi, je suis content.
D'accord, très bien.
Oui, je reprends un petit peu ce que disait Thierry. C'est sûr que pour certains, c'était une découverte de la pratique du basket. Et l'idée, c'est de vulgariser et de ne pas avoir peur, notamment dans la salle. Tous les panneaux d'entraînement pour les petits, on le met au niveau le plus bas pour que ça soit assez facile. Et donc... je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry, mais l'activité au début n'est pas très intense.
Non, au début ça commence tout doucement et puis progressivement on augmente et non, c'est très bien.
très bien. Et Sébastien, alors, qu'est-ce que l'escalade pour vous ?
Alors, moi, je pratique l'escalade seulement depuis quelques semaines. Donc, c'est tout frais pour moi. C'était une vraie découverte. Mmh. Et ce que j'aime beaucoup dans cette activité, c'est que c'est un sport qui est vraiment très complet, dans le sens où ça fait autant intervenir le mental que le physique. Et moi, j'étais à une étape de ma vie où c'était compliqué pour moi de sortir de chez moi, d'avoir, enfin, ne serait-ce que des contacts sociaux les plus basiques, ça m'était devenu une épreuve. Ouais. Et c'est vrai que on est très bien encadré, on fonctionne par petits groupes, on fonctionne en binôme quand on escalade, puisqu'il y a une personne qui grimpe en fait une voie pendant qu'une autre personne l'assure. Donc ça permet quand même de se focaliser, même si on est, on va dire, anxieux, par exemple, en termes de rapports sociaux, on n'a qu'une seule personne dont on dépend ou qui dépend de nous. Voilà, en fait, voilà, aussi, effectivement, ouais. Ouais, donc ça joue sur la confiance en soi, la confiance en l'autre. Et puis, on réapprivoise son corps également, parce que c'est vrai que quand on est malade... Il y a tout un contexte qui fait que on s'isole, etc. Enfin voilà. Et donc c'est vrai que l'escalade en particulier pour moi, en plus il y a tout un aspect symbolique, parce que c'est vrai que on gravit une montagne finalement. Mmh. Et parfois dans sa vie personnelle, notre vie devient c'est difficile et on doit gravir des obstacles et voilà. Et donc effectivement, symboliquement parlant, c'est intéressant aussi à ce titre-là, quoi.
Alors, j'ajouterais par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, moi je parle souvent de chacun son Everest. C'est-à-dire qu'en fait, l'Everest pour chacun, ça peut être d'aller faire la petite falaise en face, qui fait quelques dizaines de mètres. Ça peut être de partir en montagne pour aller faire un beau sommet. Ça peut être aussi de monter son Everest, pourquoi pas. Mais chacun a sa propre idée de ce qu'il est capable de faire. Et le plus important, c'est qu'il le fasse et qu'il en tire un bénéfice. Et donc, je me permets aussi de rappeler le terme sport-santé, qui est le but de cette émission, enfin le thème de cette émission. Ça recouvre l'ensemble des activités physiques et sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, c'est-à-dire psychologique, sociale, du pratiquant. Donc il faut prendre en compte tous ces aspects-là, c'est vraiment très important.
D'accord. Denis, oui, écoutez, j'avais une question d'ordre général quand même qui me chagrine depuis tout à l'heure. Les fédérations se sentent-elles vraiment concernées par le sujet? Et est-ce que vous le ressentez, vous, Monsieur Boué?
Alors, moi, je vais vous dire une chose. On a fait partie des 20 premières fédérations qui avons mis en place le médico-sport-santé il y a déjà 2 ou 3 ans. Et et je peux vous dire que notre président, il est très attentif à ça. Donc, quand il a un rendez-vous avec le ministère de la Santé, je pense que maintenant qu'il a ce retour par rapport à ce qu'on a pu faire dans les Pays de la Loire et maintenant bien ailleurs, c'est quand même quelque chose de très bien, très, très bien perçu. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein, ce n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il faut développer la pratique de loisirs sport-santé. Ce n'est pas quelque chose de par rapport à des malades en rémission de cancer, parce que c'est quand même extrêmement compliqué à gérer, mais une pratique de loisirs. C'est-à-dire les gens qui veulent reprendre une activité physique, eh bien qu'ils y aillent. Alors maintenant, je vais quand même dire que malgré toutes les campagnes de mobilisation et sensibilisation et les nombreuses études qui ont démontré l'apport indéniable des activités physiques pour la santé des citoyens, la situation quand même est plus qu'urgente, et en particulier pour les générations futures. Parce que quand on regarde, en fait, en France, il n'y a qu'environ 40% des Français et un enfant sur deux qui pratique suffisamment d'activités physiques. Donc il y a un énorme travail à faire là-dessus.
On a entendu les témoignages de Sébastien et Thierry tout à l'heure au basket et escalade, Vous avez des retours du public, vous, personnellement, que vous accueillez ?
Alors, le retour du public, il est excellent.
Ouais.
Le retour des institutions aussi, Agence régionale de santé, des Pays de la Loire, Direction régionale de jeunesse et sport, enfin, tout le monde nous dit que c'est une opération. Enfin, je parle de celle sur le sport santé, cancer du sein. Bon. On a eu vraiment des félicitations de tous les organismes qui militent pour la santé. La problématique, c'est qu'en fait, il faut avoir des moyens pour faire ça. Parce que je dis souvent, en fait, le sport santé, c'est pas faire une opération de communication une fois par an en disant « je fais du sport santé ». Le sport santé, si on veut améliorer la santé physique des gens, c'est une pratique régulière. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le faire comme une activité physique, 30 séances par année, une fois au moins par semaine. Et c'est la pratique régulière qui va permettre de s'améliorer.
Et vous, Guy, vous avez des retours ?
Alors, nous, on est tout jeunes dans la pratique du basket santé. Ouais. Mais moi, j'ai fait un petit peu la tournée des popotes dans le Pays de Loire. Pont-Saint-Martin, c'est un kiné qui a lancé Basket Santé. Lui, il avait déjà le matériel dans les mains, puisque il voyait ses patients. Et il est obligé de refuser maintenant du monde, puisque sur les deux niveaux qu'il pratique, il a des personnes en rémission, des personnes après problèmes cardiaques. Et il a tout un groupe qui, comme vient d'être dit, des gens proches du basket loisir, enfin du basket presque traditionnel. Il doit d'ailleurs un peu les calmer, parce qu'aussitôt qu'ils retrouvent un peu l'esprit du jeu, eh ben ça y est, c'est la compétition, pour notamment les plus anciens. Mais ça marche très fort, parce qu'il y a une forte demande. Nous, on n'a pas encore beaucoup communiqué à l'Hermine, parce que déjà, il fallait convaincre nos dirigeants que le basket santé, c'était une entité comme une autre dans un club, et que le club n'aurait plus la même image avant et après. Ce que je vous disais en préambule, le basket au NBH, au Nantes Basket Hermine, c'était le basket élite. Et là, on est en train de prendre un virage, donc on est plusieurs, et notamment, on disait en off au comité directeur, des jeunes femmes qui ont intégré le comité directeur, c'est elles qui nous ont aidés, Séverine et moi, à aller dans le sens du basket santé, nous ont soutenus. Et je pense que là, on a un seul créneau le mercredi. Je pense qu'il faudra très vite ouvrir un autre créneau, peut-être dans d'autres salles, pour pouvoir accepter
tout le monde,
plus de monde, parce qu'il y aura forcément de la demande.
Et justement, est-ce qu'il y a des contre-indications pour la pratique du sport santé ?
Oui. Bien sûr qu'il y a un encadrement médical. Il y a, comme pour toute licence, puisque le basket santé est encadré par la fédération, il y a une licence et il y a des contraintes.
Comme des ordonnances du médecin ou de
choses
comme
ça ? Sans l'accord du médical ou l'encadrement. Enfin, pour le CATTP, les patients sont encadrés, on n'est pas tout seul. Et s'il y avait quoi que ce soit du point de vue santé qu'on ne puisse pas gérer, ils sont là avec nous pour aider pendant les séances et aussi en cas de besoin.
D'accord. Denis ?
Oui, et bien avec M. Bilois également et M. Boué, je serais curieux de savoir un petit peu chez les médias, pensez-vous qu'ils pourraient véhiculer un petit peu ce sport santé et comment est-ce qu'il y a eu déjà un début de contact avec les médias ?
Alors avec les médias, moi je vais vous raconter une petite histoire. J'ai été appelé par France 3 Pays de la Loire. En général, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites la queue derrière les médias pour pouvoir un jour pouvoir faire un reportage. J'étais très surpris. Ils m'avaient appelé, je crois que c'était en fin 2016, et on a réussi à faire un reportage avec eux. Donc, comme quoi, c'est possible. Et ce reportage-là nous a été très utile parce que ça nous permet de connaître l'activité. Mais ça va bien au-delà, parce que après, c'est une porte ouverte par rapport à d'autres initiatives qu'on peut lancer. Parce que cette fois-ci, on voit que c'est une attente du public pour cette pratique d'activité. Donc après, il y a la radio, il y a aussi les articles de journaux de temps en temps. Donc il faut avoir ses contacts. Et c'est super important de communiquer sur ce qu'on fait, parce qu'on fait des très belles choses, mais souvent, elles sont méconnues.
Très bien.
J'aurais voulu savoir, moi, si on veut justement pratiquer le sport santé, comment on fait, à qui on s'adresse, comment on pratique, on peut mettre ça en place.
Alors, pour ce qu'on a lancé, nous, à l'Hermine, on a sur notre site, alors il y a une section professionnelle, une section amateur. Sur la section amateur, il y a maintenant un pavé basket santé. Pour ceux qui vont sur le site, ils ont les renseignements, les numéros de téléphone, et le secrétariat de l'Hermine dirige tout de suite vers les personnes qui vont bien. C'est le moment d'un renouvellement de licence, mais on sait bien que pour le basket santé, par exemple, c'est à la rentrée de septembre que ça va se passer. pour les renouvellements de licence dans un club, c'est plutôt à cette époque-là, parce que les places sont chères dans les clubs, la plupart du temps. Mais pour le basket santé, je pense qu'on va faire, on aura une campagne si nécessaire, parce qu'à mon avis, le bouche-oreille va suffire, avec une émission comme la vôtre, et puis un article de journal, et on remplira notre créneau. Donc à la limite, il faut qu'on soit modeste au départ, parce que sinon, on ne va pas pouvoir accepter les personnes qui vont souhaiter intégrer le basket santé. Alors ça doit être valable dans tous les clubs qui pratiquent.
D'accord. Alors moi, je voudrais noter aussi que au niveau des Pays de la Loire, il y a une initiative qui s'appelle le Plan Régional Sport Santé Bien-être, qui a commencé déjà depuis de nombreuses années, et avec l'ARS et puis la Direction Régionale Jeunesse et Sport. Et là, le mouvement sportif, il a été intégré. Et donc, nous, au sein du Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire, on délivre en fait un label Sport Santé, pour le moment, qu'on appelle le Sport Santé numéro 1, pour la prévention primaire. Donc ce label, il est attribué suivant des critères. Évidemment, il faut faire un dossier, montrer quel est le projet, quels sont les encadrants, etc. À partir du moment où le label est accordé, je crois que c'est sur une durée de 3 ans, en fait, le club après peut communiquer et il peut mettre ce label sur son site web en disant que son projet a été validé par le mouvement sportif.
Alors c'est ce qu'on a fait, nous, avec l'aide de Florian, notre service civique, on a pu être très vite labellisé et on est très fiers. À la dernière réunion du comité directeur, notre président était très fier de montrer le label Basket Santé de la Fédération française de basket, qui permet là aussi de communiquer, d'avoir le logo. Et tous ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là ne peuvent pas utiliser le label FFBB Basket Santé. Et ça, bien sûr, on rentre sur le site national et ça ouvre des possibilités, notamment pour ceux qui cherchent une activité douce, entre guillemets,
pour commencer en douceur.
Pour commencer en douceur, voilà.
Bon, très bien. Écoutez, nous vous remercions. Je remercie Thierry, Sébastien, Guy Bidouard et Thierry Bouet pour cette intervention sur le sport et santé. Nous nous quittons maintenant avec La Plage. C'est une parodie de La Montagne de Jean Ferrat, qui a été créée par le groupe Écriture et Chant du CATTP des Salorges. Nous tenons à remercier avant tout JetFM, ainsi que toute l'équipe de Radio Caméléon, Johanna, Denis, Tatiana et moi-même Fabrice. Et sans oublier nos fidèles soignants et encadrantes, Karine, Séverine, et une petite pensée pour Manu et Philippe. C'est la dernière émission de Radio Caméléon, rendez-vous à la rentrée prochaine. Nous souhaitons de bonnes vacances à tous nos auditeurs et auditrices et merci d'être à notre écoute sur JetFM 91.2. Au revoir.
Dès que le printemps apparaît, je roule vers Saint-Père-en-Retz. Dans ma Clio, je mets la radio. C'est les vacances, la vie est belle et je me sens pousser des ailes. Le soleil est dans mon rétro. Je prends la départementale, pour l'instant j'ai le visage pâle, je compte faire le plein de soleil. J'ai pris ma crème et mon maillot, pour m'hydrater j'ai pris de l'eau, Jet FM me tient en éveil. L'été, je vais à la plage, pour voir le bleu de l'océan. Respirer l'air de nos rivages et profiter de l'air du temps. Avec ma petite épuisette, je m'en vais pêcher des crevettes, des bigorneaux et des télines. À la période des grandes marées, mon seau est plein à déborder de fruits de mer et de salines. L'air du large est un grand bienfait, il dynamise, donne un coup de fouet, le soleil donne au teint son voile. J'ai mon pantalon retroussé, sur la tête un chapeau vissé, le bonheur simple c'est pas mal. L'été, je vais à la plage, pour voir le bleu de l'océan. Respirer l'air de nos rivages. profiter de l'air du temps. Le soleil baisse à l'horizon, j'ai une fameuse envie de boisson, d'un glaçon dans mon martini. Face à la mer dans un café, j'apprécie la fin de la journée, à la serveuse je souris. J'ai bien profité du bon air, l'air régénérant de Saint-Père, au grand vent j'ai pris des couleurs. Et d'énergie j'ai fait le plein, de m'en retourner j'en suis chagrin, de rentrer il est déjà l'heure. L'été, je vais à la plage pour voir le bleu de l'océan, respirer l'air de nos rivages et profiter de l'air du temps.
C'est cool. C'est bien.
L'été, je vais à la plage pour voir le bleu de l'océan, respirer l'air de nos rivages et profiter de l'air du temps.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.